Bienvenue sur Métiers à tisser, une émission proposée par les Carlotois, un collectif qui ouvre de nouveaux espaces de parole sur le territoire. Chaque mois, un acteur du champ social vient nous raconter la façon dont son métier l'a amené à la rencontre de l'autre, de l'inconnu, du différent, de l'énigmatique. Ce mois-ci, c'est Brigitte qui nous accueille. Brigitte, bonjour.
Bonjour.
Merci de te prêter au jeu de l'interview et de nous recevoir chez toi. Alors merci à double titre, puisque nous avons déjà réalisé une interview il y a quelques mois et que malheureusement l'enregistrement n'a pas fonctionné. Bon, disons que c'était une erreur de débutante. Bon, quoi qu'il en soit, tu as accepté de nous recevoir de nouveau pour évoquer ton métier, ou peut-être devrais-je dire tes métiers.
Oui,
puisque...
Ouais. Enfin, c'est un peu finalement les mêmes, ils se recoupent.
Bon, tu nous expliqueras ça. Donc, tes métiers, me disais-je, puisque tu exerces comme psychologue dans différentes institutions et comme art-thérapeute en libéral.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà. Et puis, peut-être pourras-tu nous parler donc de ton parcours et des rencontres décisives pour toi. Avant de démarrer, j'ai envie de préciser que tu nous reçois dans ton salon, dans lequel on peut voir par terre, au mur,
un peu de fouillis,
sur les meubles, des tableaux, des dessins, y compris quelques-uns qui sont en train de sécher, un piano, voilà, enfin toutes choses qui nous donnent quand même quelques indications sur ce qui te passionne et dont tu nous parleras, je le suppose.
Plaisir. C'est pas simple de refaire deux fois, mais finalement, moi je me dis que c'est pas mal parce que peut-être que je vais être un peu plus sincère. Même si je l'ai été quand même la première fois, mais peut-être dans un moment un peu différent déjà, parce que là, on est sorti du deuxième confinement, enfin bon, avec tout ce qui s'est passé pour tout le monde, là.
Effectivement, la première interview, nous l'avions faite début février, donc c'était avant le premier
confinement. Juste avant,
ouais.
Donc c'est vrai que ça donne une autre dimension aux choses, et se mettre à parler dans un moment comme ça, c'est un peu à la fois difficile, mais à la fois c'est un peu urgent finalement. Ça demande de la sincérité, ouais. Alors je sais pas du tout ce que je vais dire. J'ai essayé, je me suis dit tiens, il faudrait quand même que je sache un peu ce que je vais pouvoir transmettre, mais transmettre ça me plaît pas, juste dire un peu ce qui me vient à ce moment-là, quoi, avec tout ce qui est là, tout ce que je ressens, tout ce que... de mon parcours, de ce qui se passe dans le monde, de ouais, juste des ressentis finalement, plus que des choses que je chercherais à transmettre, mon état. L'état dans lequel je suis, qui est un peu en suspens, un peu à la fois lourd, écrasé par tout ce qui se passe, et en même temps quelque chose assez, je sais pas comment le décrire, une envie de vivre en fait, tout simplement, quoi. Je crois que c'est ça nous pousse à aller vers ça, quoi, vers plus de vie. Et ça fait du bien en même temps, quoi. Par rapport à la création, quand je parle de vie, pour moi, c'est créer, en fait.
Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler d'abord un petit peu de ton parcours professionnel pour que nos auditeurs te situent un petit peu?
Oui. Alors, ça fait quelques années maintenant que je travaille. Ça fait depuis 99, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai commencé à travailler comme psychologue en psychiatrie. Je travaille toujours en psychiatrie d'ailleurs, au CMP là actuellement. Après j'ai travaillé dans différentes institutions, des emplacements comme ça. Quand on est psychologue, on a cette chance d'ailleurs de faire des petits bouts de temps et qui nous permet de découvrir un peu, de naviguer. Donc je travaille dans pas mal de différentes institutions, avec les ados, avec femmes battues, les personnes qui ont des problèmes d'alcool. Enfin bon, voilà, pour arriver à aujourd'hui, je suis donc au CMP. Dans un CMP.
CMP.
Adulte.
Centre médico-psychologique.
Voilà.
Pour adulte.
Pour adulte, en psychiatrie adulte. Ensuite, je travaille à l'hôpital, dans un service de maternité, de gynécologie et pédiatrie. Voilà, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Et je travaille à l'AEMO, près des équipes. Voilà, donc trois lieux où là, je suis salariée. Et là, ça fait un an que j'ai eu mon diplôme d'art thérapeute. Oui, j'ai commencé assez vite finalement à travailler et à recevoir des personnes chez moi dans mon atelier. J'appelle ça mon atelier parce que C'est un endroit, j'appelle pas ça des consultations, j'appelle ça un endroit où on peut créer, où on peut déjà s'y sentir bien, accueilli, et avec différentes possibilités de créer, avec ce qu'on veut, la peinture, du papier, stylo, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Tout ce qui est possible. Donc un parcours riche de rencontres, à la fois avec les personnes que j'ai reçues, que j'ai accompagnées, et les personnes avec qui j'ai travaillé aussi, parce que les deux m'ont appris... Ils font ce que je suis aujourd'hui. Je dis ce que je suis parce que c'est à la fois un métier, mais c'est quelque chose qui nous façonne, au fond, façonne notre être. Je trouve que c'est plus qu'un métier, en fait. Parce que c'est de l'humain, quoi. C'est du vivant. Et du coup, ça, chaque personne qu'on accompagne, chaque collègue qui vient nous parler de son travail, on vit des choses un peu particulières, ben ça... Ça crée quelque chose en nous qui reste, qui laisse trace, qui s'inscrit. Passionnant, quoi, en fait. Je m'ennuie jamais depuis 20 ans, là, je m'ennuie jamais. C'est très riche. Je suis toujours surprise, d'ailleurs. J'espère que je ne perdrai pas ça. Surprise d'écouter quelqu'un, de voir comment mes collègues se débrouillent parfois avec des situations compliquées. Enfin, ça me... c'est riche, c'est beau, je trouve. Parce que ça demande s'occuper des autres, c'est quand même... On n'a pas tous les jours envie, c'est quand même lourd, quoi. Parfois, j'aimerais bien aller planter des choux, faire autre chose. Mais oui, ça enrichit, ça. On devient un peu quelqu'un d'autre à chaque fois aussi. Peu plus.
À chaque rencontre.
On est un peu plus quelque chose d'autre.
À chaque rencontre.
Oui. Pas toutes les rencontres, parce qu'il y en a, ça prend pas ou ça... Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais quand même, la plupart du temps, c'est quand même... Ouais. Quand on est un peu tranquille, un peu, je crois aussi, qu'avec... pas l'expérience, je ne sais pas, l'âge peut-être, je ne sais rien. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Une forme de pas d'attente, quoi. J'attends pas, quand je reçois quelqu'un, je commence par l'écouter, par essayer de voir ce qu'il a à dire, ou là où il en est, tout simplement, quoi. Enfin, je cherche rien de plus, et ça, c'est au fur et à mesure, parce que quand on débute, c'est toujours un peu... On est un peu torturé, là. On sait des choses, mais en fait, on sait rien, quoi. Enfin,
on sait pas vraiment écouter.
Ouais, non. Enfin, non, je crois pas. Bien que... Si on choisit ce métier, c'est que quand même l'écoute, c'est qu'on y est sensible, en fait. Après, moi, je crois que j'y étais sensible déjà, parce que j'étais dans le silence.
C'est-à-dire ?
J'étais une enfant qui parlait très peu. Je ne parlais pas, d'ailleurs, du tout. Enfin, presque pas. Je pouvais l'ouvrir, des fois, hein. Avec mes frères. Je pouvais me mettre en colère, parfois, mais je disais rien, souvent. Je ne posais pas de questions. Et du coup, j'écoutais beaucoup. J'ai appris à écouter très tôt, en fait, très jeune. Et la rencontre avec la psychanalyse m'a aidée à sortir du silence. Mmh. Ouais, ça m'a libérée quand même. Parce que bon, quand on écoute, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut quand même en sortir un peu, quoi. Enfin, je le subissais à l'époque. Alors, voilà, c'était pas mon métier, c'était ma vie. Mmh. Donc la psychanalyse, ouais, m'a aidée à trouver des mots qui résonnaient en moi. Ça m'a attirée, je comprenais rien. J'ai commencé à la fac et qu'on a enseigné à Toulouse, j'ai fait ma... Mes études à Toulouse, où il y avait beaucoup de Lacaniens quand même, donc on n'y comprend rien. Mais j'y comprenais rien, mais ça m'a tiré dans deux mots, quoi, finalement. Il y avait comme une énigme que j'avais envie de comprendre, quoi, que j'avais envie d'explorer. Sûrement la mienne aussi, parce que ça faisait énigme pour moi aussi, certaines choses de ma vie. Donc mais du coup, ça m'a donné une liberté. Déjà, ça m'a permis de trouver un travail qui pouvait... que je peux à peu près faire, parce que je ne me voyais pas trop faire grand-chose. Enfin, à l'époque, je me voyais un peu nulle part. Donc, du coup, ça m'a ouvert plein de portes.
Mais comment, de cette position de silence, peux-tu passer à l'expérience de la psychanalyse ? Qu'est-ce qui te permet de franchir le pas ?
J'ai commencé par faire mes études... Après le bac, j'ai eu le bac, je ne sais pas comment, mais je l'ai eu. Donc il a fallu que je choisisse quelque chose. Bon. Et puis j'avais lu Freud quand même, en philo, là, on nous enseignait un peu. Et ça, j'avais adoré. Et du coup, Je me suis dit, bon, je vais aller à la fac des sciences humaines déjà, parce que je ne me voyais pas ailleurs. Et ça se fait un peu comme ça, de manière très inconsciente en fait. Je ne l'ai pas choisi vraiment. Moi, j'aurais aimé aller aux Beaux-Arts, mais je me sentais pas capable à l'époque. Je crois que je ne regrette pas aujourd'hui, parce que je pense que je n'aurais pas supporté d'être sous le regard là, des autres. Et je suis allée, l'inscription à la fac, ça a été... j'ai pris le couloir, je ne sais pas si vous connaissez Toulouse, mais c'est des longs couloirs là. J'ai pris le couloir, je suis arrivée devant deux panneaux, philosophie et psychologie. Et j'ai regardé la philosophie, j'ai dit, ah oui, ça me plaît bien, mais prof, alors là... Puis je ne me voyais pas philosophe, je me dis quand même, je n'arriverai jamais à ça. Donc, je me suis dit, bon, psycho quand même, Freud, bon, allez, on va y aller. Et j'ai choisi le jour même, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Et donc après, j'ai rencontré des enseignants qui sont passionnés, qui sont des conteurs en fait, savent transmettre, parce que c'est pas évident de transmettre aussi. Hein. Donc c'est ça qui m'a tenue. Et après, quelques années d'études, où bon, on y arrive un peu quand même, bon, hein. Ah, on y arrive, bon. Et là, je me suis dit quand même, si un jour je suis psychologue, il faut quand même... Puis j'étais pas très bien non plus dans ma tête, non. Ça suffisait pas d'apprendre. Et du coup, j'ai commencé une analyse. Donc là, la rencontre avec la psychanalyste de l'époque, qui a supporté mon silence, parce que j'ai continué à l'être quand même, en quelques années. J'ai commencé à travailler, puis voilà. Quand on nous donne une place aussi dans la vie, ça nous autorise un peu plus à se sentir à sa place un peu. Enfin, on se dit, bon, mais si l'autre nous fait confiance, c'est que... On peut y aller quand même un peu. Mais ça a pris du temps.
Ouais.
Il a fallu quelques années avant même que je m'autorise à me dire psychologue, même si j'avais la plaque là. Enfin, le nom.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent, qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Je je me sentais en formation. Donc du coup, j'ai écouté beaucoup les patients pour les accompagner, mais en fait, c'est pour apprendre, pour m'enseigner. Et j'ai appris comme ça, et aussi avec mes collègues. J'ai commencé en psychiatrie, j'ai travaillé à l'hôpital de jour, au CMP, appartement thérapeutique. Et c'était des endroits où, à l'époque, c'était dans une mouvance de Houri, Tosquelles, tout ce versant-là, et qui était dans une, ébullition de pensées, de paroles, d'échanges. Enfin, c'était très riche à l'époque, dans les institutions. Avec beaucoup de tolérance aussi, ce qui m'a permis quand même aussi de tenir à ma place. Parce que si on n'avait pas été un peu tolérant, enfin, quand on débute, on est un peu... Et puis j'étais pas très à l'aise, un peu timide, enfin voilà. Donc ça devait se voir quand même. Et finalement, ces gens-là, ils m'ont parlé, ils m'ont transmis leur expérience. Pendant des années, je faisais ça. Je le fais encore, j'aime bien qu'on me parle de son travail, de rencontrer les patients, tout ça. Enfin, je crois que c'est ça notre travail. C'est rien d'autre que ça, finalement.
Donc, quelques années en psychiatrie, en hôpital de jour.
Oui, hôpital de jour, c'est l'appartement thérapeutique.
Et ensuite
Ensuite, j'ai travaillé au CDO, Centre départemental de l'enfance, où là, j'ai travaillé avec des ados. C'est intéressant de travailler avec des ados aussi, ils te bousculent. Ils ne sont pas consentants. Hein. Il faut être un peu authentique quand même.
Ils ne sont pas compliants, comme on dit maintenant.
Compliants, voilà, oui. Dans le soin, en demande. Ni les patients psychotiques d'ailleurs. Enfin, qui ont une psychose. J'aime pas. Finalement, je suis dérangée maintenant par. Quand je dis les patients psychotiques. Quelque chose qu'on dit souvent finalement. Pourquoi on le dit comme ça? Ils ont une psychose. Ils sont pas que psychotiques. Enfin, ils sont d'abord quelqu'un. Enfin, je sais pas. Je suis un peu plus dérangée maintenant avec cette façon, cette formulation. Je sais pas. Voilà, un petit peu. Après, je travaille dans d'autres endroits, mais on va pas énumérer tout. Les endroits, c'est pas intéressant non plus.
Et alors, est-ce qu'il y a des circonstances, des personnes, des accidents de parcours, je ne sais pas, qui ont une valeur de rencontre pour toi?
Ben déjà, c'est quand j'étais embauchée la première fois. Enfin, j'ai rencontré M. Casanova, qui était psychiatre à l'époque. Et à l'entretien d'embauche, bon, ça se déroule assez bien. Et puis, il revient sur mon diplôme. Et il me dit, ah, vous avez un diplôme, ou l'appellation d'ailleurs, enfance ado, là, enfin. Et oui, et je lui dis, oui, j'ai que ce diplôme-là, quoi. Que enfance ado, parce que j'ai pas fait psychobato clinique là, de l'époque, qui ouvrait un peu plus de portes, soi-disant. Et je lui dis que ça. Enfin, il me regarde, il me dit, mais vous croyez pas que un enfant, c'est un sujet, donc peu importe l'âge. Et là, j'ai dit, ben oui, c'est ça. Et je crois que cette... Bon, déjà, il m'a embauchée, donc... Bon. Mm-hmm. Mais je crois que cette phrase m'a donné beaucoup de confiance aussi, de par la tolérance qu'il pouvait aussi avoir, et d'effectivement, et puis cette réalité clinique, enfin, c'est très juste de dire ça. On n'est pas spécialisé dans les enfants, enfin, c'est un peu... Dommage de prendre les choses dans ce sens-là, effectivement. Donc voilà, il y a ça. Et après, il y a... j'ai pas... C'est toutes les personnes qui m'ont soutenue, en fait. Qui ont perçu ma manière de travailler ou d'être, je sais pas. Enfin, et qui m'ont dit, mais si, vas-y, quoi. Toi, Sylvie, qui m'a beaucoup... ouvert vers des choses, des postes, alors qu'on ne se connaissait pas plus que ça, mais tu as su peut-être voir ce que j'arrivais pas, moi, à percevoir du positionnement que je pouvais avoir, etc. Enfin, donc c'est toutes ces personnes-là, en fait, qui viennent te regarder, et malgré tes hésitations, ou tes manques, ou perçoivent que tu tiens peut-être une position qui peut accompagner l'autre, hein, voilà. Sans que ça l'écrase, sans que ça le... Je ne sais pas comment le définir, mais... Et voilà, de fil en aiguille, là, les choses se tissent au fur et à mesure. Enfin. Et pour revenir sur la tranquillité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, même quand on débute, finalement, on a cette tranquillité quelque part. Parce qu'on est... Enfin, c'est pas de la tranquillité, mais c'est de la... On pense qu'on sait pas, en fait. On part pas du principe qu'on sait rien. Enfin, c'est le fait de pas... De se dire qu'on n'est pas... Qu'on n'en sait rien de l'autre, en fait. Et enfin, que quand on le...
C'est déjà important de pouvoir se dire qu'on sait rien de l'autre.
Oui.
J'ai quand même idée que trop souvent, quand on sort des études, y compris universitaires, le risque, c'est de penser que l'on sait.
Oui, oui, ça, c'est un risque. Moi, j'avais pas ce risque-là, parce que bon, j'ai toujours eu l'idée que je savais pas assez, donc... J'ai toujours cette idée d'ailleurs, hein, mais ça, j'espère que ça ne me lâchera jamais. Hein. Oui. Mais oui, oui, c'est un risque. Ouais. La psychanalyse, ça aide à ça, c'est que ça ne te donne pas non plus un guide, un truc. Tu te débrouilles un peu, hein, avec comme ça, des notions, des choses qui te donnent des repères, mais ça te dit pas comment il faut faire avec les patients. Quoi. Oui. C'est ça qui est riche aussi, c'est que ça laisse un espace, une possibilité de ne pas tout savoir à l'avance, de ne pas tout diriger, de pas dans la maîtrise en fait. Donc aujourd'hui, c'est peut-être plus par une tranquillité de... C'est très bien de rien savoir en fait, à l'avance. Et de se laisser porter ce que l'autre amène. Ce qu'il peut dire au moment de la rencontre, parce que c'est... Voilà, c'est... Il laissait un peu les choses venir telles qu'elles sont, comme ça, sans en chercher plus, sans en vouloir plus. Ça, en psychiatrie, j'ai beaucoup appris aussi avec les personnes qui ont une psychose, parce qu'ils sont pareils, ils sont pas consentants, enfin, ils ont pas envie de vous voir, enfin, ils se demandent bien ce qu'on leur veut, enfin, ils ont bien raison d'ailleurs. Et du coup, ça apprend. Ça se passe pas souvent dans un bureau d'ailleurs. Enfin, le travail en psychiatrie, c'est pas je reçois une personne qui vient vous demander là, de l'aide, etc. Ça se passe pas comme ça. Enfin, c'est de l'imprévu, c'est dans un escalier, c'est entre deux portes. Le patient ne peut pas rentrer dans le bureau de toute manière, donc. Ça se fait autrement, en fait. Et ça apprend à décaler un peu, enfin, accepter que les choses ne se fassent pas comme on voudrait, quoi. Comme on voudrait, parce que ça nous tranquillise, en fait. Ça nous sécurise, parce qu'on cherche à se sécuriser. Et travailler dans l'insécurité, comme ça, c'est difficile au début. Hein. J'avais la trouille, moi. Je savais pas trop. J'étais angoissée. Enfin, ouais. Puis au fur et à mesure, tu te rends compte que finalement, plus tu lâches cette idée... qu'il faudrait savoir où on va absolument, là. Plus tu lâches ça, plus ça permet aussi à l'autre de venir à toi. Hein.
Oui, mais ce que tu dis là, c'est quand même très éloigné des enseignements qui sont dispensés depuis quelques années dans les universités, oui. Où on apprend aux psychologues à poser un cadre d'une très grande rigidité... qu'il concerne le temps de la séance, qu'il concerne le contenu, qu'il concerne les supports, les outils.
Oui, 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 c'est vrai. Ça a été violent d'ailleurs il y a quelques années, vers ce virage qu'a pris les institutions en psychiatrie notamment. Moi, j'ai vraiment vécu violemment. Enfin, j'ai été très en colère déjà. De ce qui se passait, de la manière dont on accueillait les personnes. Ne serait-ce que par l'appellation. Alors on a débattu, entre guillemets, à ce moment-là, c'est sur cette idée que... On ne parlait plus de psychose, là, à ce moment-là. Enfin, on a laissé tomber psychose, névrose, et on est parti sur des troubles et sur... le handicap. Donc les personnes accueillies, on les définissait déjà comme handicapées. Et moi, ça m'a Mais ça m'a tordue. J'ai mis du temps à... J'accepte toujours pas, mais je sais que ça sert plus à rien d'être en colère. Enfin, ça a servi à rien. Ça n'a pas suffi. J'ai essayé, hein, pourtant de... Mais c'était peut-être une colère trop hargneuse. Parce que j'avais peur de ce qui allait se passer. Et je vois bien que ce que je redoutais, finalement, c'est produit. C'est-à-dire que les pensées en équipe, par exemple, prendre le temps de repérer un peu, de repérer, quand je dis repérer, c'est juste raconter ce qui s'est passé avec un patient. Voilà, on était à table, il s'est passé ça, ou le matin, au lever, il s'est passé ça. Enfin, j'ai ressenti ça, j'ai eu du mal avec ça. Toutes ces choses-là qu'on prenait le temps de se dire, en fait.
Mm-hmm.
Tout ça, ça... C'est encore là, mais c'est, enfin, je ne travaille plus en hôpital. Mais je crains bien que ce soit de moins en moins possible. Donc ce travail de pensée, là, de juste prendre le temps de se raconter ce qui se passe.
Mm-hmm.
D'essayer d'y voir un peu autre chose que du trouble ou de l'handicap. Mais plutôt ce qui se passe dans la relation, dans la logique, dans une logique qui n'est pas handicapée ou réadaptée ou rééduquée. C'est plutôt dans une logique propre à chacun, à chaque personne qu'on reçoit, de par leur histoire, de par là où ils en sont, et de ce qu'on leur demande aussi. Qu'est-ce qu'on leur demande ? Quand vous dites que vous recevez quelqu'un et que vous commencez à lui dire vous êtes handicapé, on va vous rééduquer, c'est déjà mal parti pour moi. Donc ça m'a... Rien qu'en parlant là de ça, ça m'a fait mal au cœur. Ah, j'étais... Puis à un moment donné, je me suis dit, bon allez, comment on peut faire pour essayer de sauvegarder un peu de ça, sans être en rage.
Un peu de ça, c'est-à-dire un peu
de se raconter et d'échanger quelque chose, de pas être que dans la description là.
Pas que dans l'observation.
L'observation. Oui, voilà, de quelque chose de prédéfini là. Enfin, on cherche à coller, on cherche un diagnostic. Enfin, voilà, je caricature un peu parce que les équipes, elles fonctionnent quand même encore un peu humainement, quand même. Enfin, c'est pas non plus à ce point-là, mais quand même. Ce qui définit une institution, quand même, c'est les signifiants qui sont un peu maîtres, là, enfin, au départ, quoi. Enfin, ce qui donne un point de départ à l'accueil de quelqu'un. C'est important, quand même. Donc ça, à un moment donné, de toute façon, il fallait que je m'arrête d'être en colère, parce que c'est devenu impossible. Et puis ça faisait que clivage et ça aidait pas les personnes. Après, je me suis dit ça peut que... Bon, ça va pas, quoi. Donc du coup, je me suis tournée vers... j'ai essayé d'inventer autre chose, quoi, que le simple fait de se parler en équipe. Et du coup, là, j'ai proposé, à ce moment-là, un appartement thérapeutique, là, j'ai proposé un atelier, comment je l'avais appelé ça ? Aparté.
Mm-hmm.
Voilà. Atelier aparté. Bon, on se mettait autour d'une table, avec, pareil, du matériel autour, où on avait fait pousser de l'osier, on utilisait l'osier, ou du fil de fer, ou enfin, des choses, des bricoles, quoi. On bricolait et on partait de rien, sans demander quoi que ce soit non plus, de créer absolument quelque chose, c'était pas ça l'idée. C'était juste d'être là et de voir ce qui s'y passe. Donc voilà, j'ai commencé à ce moment-là à aller un peu vers de la médiation, on pourrait appeler ça de la médiation, avec mes collègues aussi. Voilà. J'ai demandé à mes collègues de monter cet atelier avec moi.
Mmh.
Et après, oui, l'humour, j'ai essayé d'amener les choses du côté un peu de l'autodérision, un peu, voilà. d'essayer de plus se mettre en colère face à ce qui était en train de se passer, mais plutôt de trouver une manière de dire les choses sans que, pour qu'elles soient reçues, quoi. Enfin, parce que sinon, ouais, c'est... Bon, après, on voit bien maintenant, là, je trouve qu'il y a une pauvreté aujourd'hui. Alors peut-être que j'y contribue aussi, hein, enfin, je me mets dans le même panier. Hein, enfin, dans les institutions, il y a une pauvreté d'échange. On prend plus plaisir à parler. Avant, on passait 3 heures de réunion sur 8 patients. Aujourd'hui, c'est rare qu'on passe même une demi-heure. Enfin, bon, en CMP, c'est un peu particulier parce que chacun travaille un peu de son côté, on va dire. Donc, on n'a pas toujours les mêmes patients, enfin, en commun. Enfin, bon. Donc, c'est pas le même travail qu'en institution d'hospitalisation, mais quand même, je trouve qu'il y a... Alors, je sais pas, c'est aussi à l'image de ce qui se passe dans la société, je pense que c'est pas...
J'en reviens à ce groupe aparté, cet atelier. Mm-hmm. C'était un premier pas vers ce qu'allait devenir ton activité d'art thérapeute. C'était les balbutiements de...
Oui. C'est... Bon, ça faisait des années que j'avais proposé un atelier de ce type-là, mais ça avait toujours été refusé. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on ne vous dit pas trop pourquoi. Hein. Mais un jour, c'est rigolo parce que les éléments extérieurs qui nous ont aidés. Il y avait eu une tempête, et ça avait fait tomber tous les arbres dans le jardin de l'institution. Et j'ai dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion de faire quelque chose de ces arbres morts. Et là, on m'a dit oui. On m'a dit oui parce que sûrement, ça servait à quelque chose. Effectivement. Il y a des arbres morts, il faut s'en débarrasser, de toute façon. Donc le côté un peu pratique, qui était peut-être plus palpable, je ne sais pas, dans la compréhension de ce que j'allais y faire. Parce qu'avant, je disais, non, mais je ne sais pas ce qui va s'y passer. C'est un atelier de médiation, création. Je ne sais pas, on verra, quoi. Est-ce que c'est thérapeutique? J'en sais rien. C'est peut-être pour chaque patient, on verra ce qui s'y passe. C'est pas thérapeutique en soi, hein. Un endroit où on crée. Enfin, la création, c'est pas thérapeutique comme ça. C'est parce qu'on l'a décrété, c'est thérapeutique. Enfin, ça marche pas comme ça. Mm. Par contre, il peut s'y passer des choses très, très subjectives et puis très dans le lien aussi, dans le lien à l'autre. Enfin, on peut travailler tout ça. Enfin, on peut, pareil, j'aime pas trop dire travailler ça. Travailler le lien social avec les patients. J'aime bien dire ça permet. Ça permet le lien social, ça permet l'ambiance, la manière dont on reçoit l'autre, où on le reçoit, comment. Enfin, si on y est bien, nous-mêmes, déjà, c'est pas mal. Mais c'est pas pour ça que je vais être thérapeutique dans ce que je vais proposer. Enfin, c'est pas moi qui décide de ça. Ça se fait de surcroît. Mmh. Mais voilà, c'est ça qui est aussi... Il faut être tranquille, là aussi, avec ce qu'on demande dans un atelier comme ça. Mmh. De toute manière, si vous en demandez trop, les patients ne viennent pas. Enfin, c'est assez clair, ils sont assez clairs avec ça, eux. Ils ne viennent pas. Ou ils s'en vont très vite, ou ils ne supportent pas, ou ils vous montrent leur désaccord.
Oui.
Si on est trop insistant sur le thérapeutique. Ou alors ils vont s'y coller complètement et être aliénés par ça. Mais voilà. Donc ça a été une de mes manières à l'institution de proposer un peu autre chose, parce qu'il fallait être innovant, hein, à l'époque, on nous demandait d'être innovant. Le psychologue, vous n'êtes pas assez innovant. La psychanalyse, c'est dépassé maintenant, c'est l'inconscient, je ne sais pas si ça existe. Vous entendez des choses comme ça quand même. Donc bon, c'était une chouette expérience. Hein. Parce que là, c'est pareil, je n'avais pas trop de... Enfin, j'avais donné un cadre minimum, mais je ne savais pas trop ce qui allait se passer, comment, etc. En plus, on n'avait pas de lieu, parce que voilà, on nous a dit OK pour les arbres, mais après, on n'avait pas de matériel, pas de lieu, pas de... Bon, donc il a fallu... Alors, en y réfléchissant avec mes collègues, on s'est dit itinérant. On n'a pas d'espace dédié, mais on va être dans l'itinérance en fonction de ce qui se passe, de ce qui se présente, de l'inspiration du moment. Alors des fois, on pouvait arriver avec une phrase entendue à la radio, une chanteur, un chanteur, une chanson, ça pouvait être plein de choses. Il fait beau, ben on va se mettre dehors. On va s'installer dehors. Ça pouvait être un patient qui amène je sais pas, un dessin, et qui vous dépose ça. Mm-hmm. Enfin, ça, c'était très en fonction de ce qui se présentait, en fait. Et du coup, on pouvait être à la, dans la salle à manger, ou dehors dans le jardin, ou en bas à la cave, ou en haut dans la salle commune. Enfin, c'était vraiment... Et finalement, on s'y retrouvait toujours, en fait. Et nous, les patients, on arrivait à un point, un endroit de rencontre, en fait, de rencontre possible. Et donc après, au fur et à mesure... Bon, après, ça a fermé, hein. L'appartement thérapeutique enfermé, tout ça, c'était clair. Puisque c'était encore un virage pris par la psychiatrie de fermer les lieux d'hospitalisation et de faire plus d'ambulatoire, de faire plus de suivi à domicile, etc. Bon. Je suis assez d'accord avec ça. C'est bien que les gens puissent rester à domicile quand ils peuvent, etc. Mais après, il y en a certains qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, mm-hmm, aussi, et de manière... le temps qu'il faut. C'est pas trois semaines d'hospitalisation qui suffisent pour certains. On le sait très bien. Et pour sortir de certaines souffrances et de retrait social complet pour certains, il faut du temps pour accepter d'être à nouveau avec l'autre, face à l'autre. Ouais, c'est quand même très douloureux pour eux. Hein. Donc il faut du temps, il faut de la présence. Et ça, à un moment donné, c'est pareil. On nous a dit, bah, vous mettez trop de temps. Les patients restent trop longtemps chez vous. Ils sont chronicisés. Alors chronicisés, c'est-à-dire parce qu'ils restent longtemps avec nous, mais sur quoi on se base pour dire ça, enfin. Alors oui, on voudrait nous aussi qu'ils soient en dehors de l'hôpital, mais si eux n'y arrivent pas, c'est que c'est pas parce qu'on le veut pas ou qu'on ne cherche pas à les amener à ça, c'est qu'ils n'en sont pas là. Ils n'en sont pas encore là. Alors effectivement, ça prenait 2, 3 ans, 5 ans. Ça pouvait durer oui, jusqu'à 5 ans, une hospitalisation. Mais ils en sortaient à un moment donné. Et ceux qui vraiment ne pouvaient pas en sortir, ils étaient réorientés aussi sur des structures de lieux de vie. Ils ne pouvaient pas être seuls. Ils ne pouvaient pas être seuls chez eux, dans un appartement. Être dans une vie ordinaire, on va dire. Mais ce n'est pas grave en soi, ça. Enfin, quel que soit l'endroit où on est, l'important, c'est de s'y trouver bien, enfin. Donc c'est, oui, il y a eu ce reproche entre guillemets sur la manière dont on pouvait travailler à un moment donné sur la longueur de nos prises en charge, qui est dommage, je trouve, parce que voilà, moi je sais pas le temps que je vais prendre, je suis incapable de dire à quelqu'un. On me la pose souvent maintenant, de plus en plus d'ailleurs, je vois pourquoi, mais combien de temps ça va durer, je ne sais pas, ça prendra le temps qu'il faudra. Le vôtre, enfin, c'est difficile de répondre à ça, enfin, de savoir à l'avance ça. 3 mois, 6 mois, c'est ça. À un moment donné, on a mis aussi des temps d'hospitalisation. On n'est pas arrivé jusqu'au contrat, comme font certains, mais parce qu'on a un peu résisté. Mais alors, bon, oui, on pourrait dire qu'il faut comme ça se donner un temps spécifique, enfin, déterminé, localisé, enfin, je sais pas. Pourquoi pas, mais pourquoi aussi, enfin, pourquoi être angoissé par ça? Pourquoi être angoissé par le fait que le patient va rester un an, 2 ans, si on voit que là, il arrive à être un peu... Comment je pourrais décrire les patients que j'ai suivis longtemps? Je dirais que c'est... L'évolution de ces patients-là, ça a été... de les connaître. C'est au moment où ils s'ouvrent à vous. Où ils commencent à vous raconter. Et ça prend des années, des fois. Il y en a certains, ils vous diront rien pendant 2 ans. Mais rien, vous savez rien d'eux, en fait. Juste ce qu'ils montrent comme ça, leurs symptômes, enfin, leurs difficultés, mais rien d'eux, ils vous disent rien. Et un jour, pouf, ça arrive, ça se présente. Alors ça se présente pas toujours avec le psychologue d'ailleurs, hein. Ça peut être la femme de ménage, je sais pas, enfin, l'infirmier, si ça se fait à n'importe, on s'en fiche en fait. Mais ça se produit, à un moment donné ça se produit. Il y a quelque chose d'autre qu'on découvre de l'autre. Il se découvre en fait.
Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est l'institution, donc avec l'ensemble des professionnels qui exercent, qui accueillent des patients, et le respect du temps de chacun, qui fait qu'à un moment donné, quelque chose de plus intime d'un patient peut être dit par lui.
Ah oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut faire preuve d'hospitalité, tout simplement, de... Pas comment... Oui, c'est ça, c'est offrir juste une ambiance, un lieu où il y a des gens qui se croisent, où il y a des personnes qui se croisent et il y a des choses qui se passent, qui s'y passent. Et à ce moment-là, il y a du possible, en fait. C'est d'essayer de rendre possible les choses. On ne sait pas quoi, mais rendre possible pour eux de dire quelque chose de subjectif, en fait. Mmh. Qui soit... Mais ça, on le repère assez vite. Enfin, on le voit vite. Le patient, il change. Enfin, aussi. Enfin, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler. Il y a un changement assez important aussi. Hein. Mais ça peut prendre des années. Et alors, effectivement, il faut être patient. Il faut accepter que ça dure, que ça soit aussi long.
Chez la jolie Rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés. Ici on peut apporter ses baisers.
Moi mes baisers, je les avais perdus, et je croyais déjà avoir tout embrassé.
Et je ne savais pas que tu étais venu, que ta bouche neuve en était tapissée.
La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sur mon berceau, les fées se penchaient pas beaucoup.
Et chaque fois que je tombais dans un carré d'ortie, il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou.
Pourtant, ma chance, aujourd'hui, elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés.
Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber.
On était seul au monde dans ce bal populeux, et dans une seule main j'emprisonnais ta taille.
Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu. Ils ont bien failli gagner la bataille.
J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux. J'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom.
J'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston.
Je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit.
Ton pauvre cœur faisait des petits bonds de sardines quand j'ai posé ma tête contre lui.
Dieu, tu remercies Dieu, ça c'est bien de toi, mais mon amour pour toi est autrement plus fort.
Est-ce que Dieu aurait pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher à ton corps?
laisser la jolie rosette au café du canal. Sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal. On pouvait lire sous le cœur s'entrelacer. Ici, on peut t'apporter ses baisers.
Si vous voulez connaître la suite du parcours de Brigitte, la place de l'art dans sa vie et sa conception de l'art-thérapie, retrouvez-nous le mois prochain pour la deuxième partie de cette émission.